Petit bonhomme, chapitre 4. L'enterrement d'une mouette. Au cours de cette pénible existence, dans ce milieu dégradant des déguenillés, petit bonhomme ne faisait-il pas parfois un retour en arrière? Qu'un enfant, heureux des soins qui l'entourent, des caresses qu'on lui prodigue, se livre tout entier au bonheur de vivre, sans le souci de ce qu'il a été ni de ce qu'il sera, qu'il s'abandonne à l'épanouissement de son jeune âge, cela se conçoit, cela doit être. Hélas, il n'en va pas ainsi lorsque le passé n'a été que souffrance. L'avenir apparaît sous le plus sombre aspect. On regarde en avant après avoir regardé en arrière. Et s'il remontait d'une année ou deux, que revoyait-il, petit bonhomme? Ce tonne-pipe, brut et brutal, ce gueux sans pitié qu'il craignait parfois de rencontrer au coin d'une rue ou sur une grande route, ouvrant ses larges mains pour le ressaisir. Puis un souvenir vague et terrifiant lui revenait, celui de cette cruelle femme qui le maltraitait, et aussi l'image consolante de cette fillette qui le berçait sur ses genoux. Je crois bien me rappeler qu'elle se nommait Sissi, dit-il un jour à son compagnon. « Qu'est joli nom !» répondit Grippe. Au vrai, Grippe était persuadé que cette Sissi ne devait exister que dans l'imagination de l'enfant, car on n'avait jamais pu avoir de renseignements sur elle. Mais quand il semblait douter de son existence, petit bonhomme avait envie de se fâcher. Oui, il la revoyait en pensée. Est-ce qu'il ne la retrouverait pas un jour? Qu'était-elle devenue? Vivait-elle encore chez cette mégère, loin de lui? Des milles et des milles les séparaient-ils l'un de l'autre? Elle l'aimait bien, et il l'aimait aussi. C'était la première affection qu'il eût éprouvée avant d'avoir rencontré Grippe, et il parlait d'elle comme d'une grande fille. Elle était bonne et douce, elle le caressait, elle essuyait ses larmes, elle lui donnait des baisers. Elle partageait ses pommes de terre avec lui. J'aurais bien voulu la défendre lorsque la vilaine femme la battait, disait petit bonhomme. Moi aussi, et je crois que j'aurais cogné dur, répondait Grippe pour faire plaisir à l'enfant. D'ailleurs, si ce brave garçon ne se défendait guère quand on l'attaquait, il savait au besoin défendre les autres, et il l'avait déjà prouvé, le cas se présentant de mettre à la raison cette mauvaise engeance acharnée contre son protégé. Une fois, pendant les premiers mois de son séjour à la Ragwood School, attiré par les cloches du dimanche, petit bonhomme était entré dans la cathédrale de Galway. Nous avouerons que le hasard seul l'y avait conduit, car les touristes eux-mêmes ont quelque peine à la découvrir, perdue qu'elle est au milieu d'un labyrinthe de rues fangeuses et étroites. L'enfant était là, honteux et craintif. Certainement, si le redoutable bedeau l'eût aperçu, presque nu sous ses haillons, il ne lui aurait pas permis de rester dans l'église. Il fut très étonné et très charmé de ce qu'il entendit, les chants de l'office, l'accompagnement de l'orgue et de ce qu'il vit. Le prêtre à l'autel avec ses ornements d'or et ses longues chandelles qui étaient pour lui les cierges allumés en plein jour. Petit bonhomme n'avait pas oublié que le curé de Westport lui avait quelquefois parlé de Dieu, Dieu qui est le Père à tous. Il se rappelait même que lorsque le montreur de marionnettes prononçait le nom de Dieu, c'était pour le mêler à ses horribles jurons. Et cela troublait sa pensée au milieu des cérémonies religieuses. Et pourtant, sous les voûtes de cette cathédrale, cachée derrière un pilier, il éprouvait une sorte de curiosité, regardant les prêtres comme il eût regardé des soldats. Puis, tandis que toute l'assemblée se courbait pendant l'élévation au tintement de la sonnette, il s'en alla avant d'avoir été aperçu, glissant sur les dalles sans plus de bruit qu'une souris qui regagne son trou. Lorsque petit bonhomme revint de l'église, il n'en dit rien à personne, pas même à Grippe, lequel d'ailleurs n'avait qu'une très vague idée de ce que signifiaient ces pompes de la messe et des vêpres. Toutefois, après une seconde visite, s'étant trouvé seul avec la crisse, il se hasarda à lui demander ce que c'était que Dieu. « Dieu !» répondit la vieille femme en roulant des yeux terribles au milieu des bouffées nauséabondes qui s'échappaient de sa pipe de terre noire. « Oui, Dieu !»«
Dieu !»
dit-elle, « c'est le frère du diable, à qui il envoie ses gueux d'enfants qui ne sont pas sages pour les brûler dans son feu d'enfer. » À cette réponse, petit bonhomme devint pâle, et bien qu'il eût grande envie de savoir où était cet enfer rempli de flammes et d'enfants, il n'osa pas interroger Chris à ce sujet. Mais il ne cessa de songer à ce Dieu dont l'unique occupation semblait être de punir des bébés. Et de quelle horrible façon, s'il fallait s'en rapporter au dire de Chris. Un jour, cependant, très anxieux, il voulut en causer avec son ami Grippe. « Grippe, lui demanda-t-il, as-tu entendu quelquefois parler de l'enfer ?»«
Quelquefois, petit. »«
Où se trouve-t-il, l'enfer ?»«
Je sais pas. »«
Dis donc, si on y brûle les enfants qui sont méchants, on y brûlera Carker ?»
Oui, et à grand feu.
Moi, Grippe, je ne suis pas méchant, dis.
Toi, méchant, non, je crois pas.
Alors, je ne serai pas brûlé.
Pas même d'un cheveu.
Ni toi, Grippe.
Ni moi, bien sûr.
Et Grippe crut bon d'ajouter qu'il n'en valait pas la peine, étant si maigre qu'il n'eût fait qu'une flambée. Voilà tout ce que petit bonhomme savait de Dieu, tout ce qu'il avait appris du catéchisme. Et pourtant, dans la simplicité, dans la naïveté de son âge, il sentait confusément ce qui était bien et ce qui était mal. Mais s'il ne devait pas être puni suivant les préceptes de la vieille femme de la Roy God School, il risquait fort de l'être suivant les préceptes de M. Hobotkins. En effet, M. Hobotkins n'était guère content. Petit bonhomme ne figurait pas sur ses livres à la colonne des recettes, tout en figurant à la colonne des dépenses. Voilà un gamin qui coûtait. Oh, pas grand-chose. M. Hobotkins, et qui ne produisait pas. Au moins les autres, mendiant et rapinant, subvenaient-ils en partie aux frais de logement et de nourriture, tandis que cet enfant ne rapportait rien. Un jour, M. Hobotkins lui en fit de très vifs reproches, en dardant sur lui un regard sévère à travers ses lunettes. Petit bonhomme eut assez de force pour ne point pleurer en recevant cette admonestation, que M. Hobotkins lui adressait au double titre de comptable et de directeur.
« Tu ne veux rien faire ?» lui dit-il.
« Si, monsieur, » répliqua l'enfant, « dites-moi, que voulez-vous que je fasse ?»«
Quelque chose qui paye ce que tu coûtes. »
« Je voudrais bien, mais je ne sais pas. »
« On suit les gens dans la rue, on leur demande des commissions. »«
Je suis trop petit et on ne veut pas. »
« Alors on cherche dans l'état, au coin des bornes, il y a toujours quelque chose à trouver. »«
Les chiens me mordent et je ne suis pas assez fort, je ne peux pas les chasser. »«
Vraiment ? As-tu des mains ?
Oui.
As-tu des jambes ?
Oui. »
« Eh bien, cours sur les routes après les voitures et attrape des coppers puisque tu ne peux pas faire autre chose. »«
Demander des coppers ?» Et petit bonhomme eut un haut le cœur, tant cette proposition révolta sa fierté naturelle. Sa fierté, oui, c'est le mot, et il rougissait à la pensée de tendre la main.
« Je ne pourrai pas, monsieur Hobotkins, » dit-il.
« Ah, tu ne pourrais pas ?»
« Non.
Et pourras-tu vivre sans manger ?
Non, n'est-ce pas ?
Je te préviens pourtant qu'un jour ou l'autre, je te mettrai à ce régime-là, si tu n'imagines pas un moyen de gagner ta vie. Et maintenant, file. »
Gagner sa vie ? À 4 ans et quelques mois ?
Il est vrai qu'il l'a gagnée déjà chez le montreur de marionnettes. Et de quelle façon ? L'enfant fila, très accablé. Et qu'il eût vu dans un coin, les bras croisés, la tête basse,
aurait été pris de pitié. Quel fardeau était la vie pour ce pauvre petit être! Ces petiots, quand ils ne sont pas abrutis par la misère dès le bas âge, on ne saurait s'imaginer ce qu'ils souffrent, et on ne s'apitoiera jamais assez sur leur sort. Et puis, après les admonestations de M. Haute-Botkins, venaient les excitations des polissons de l'école. Cela les enrageait de sentir ce garçon plus honnête qu'eux. Ils avaient plaisir à le pousser au mal, et ne lui épargnaient ni les perfides conseils, ni les coups. Carker, surtout, ne tarissait pas à cet égard, et il y mettait un acharnement qui s'expliquait par sa perversité. « Tu ne veux pas demander la charité ?» lui dit-il un jour. « Non, » répondit d'une voix ferme petit bonhomme. « Eh bien, sotte bête, on ne demande pas, on prend. »«
Prendre ?»«
Oui, quand on voit un monsieur bien mis, avec un mouchoir qui sort de sa poche. On s'approche, on tire adroitement le mouchoir, et il vient tout seul. »«
Laisse-moi, Carker. »
Et quelquefois, il y a un porte-monnaie qui arrive avec le mouchoir.
Mais c'est volé, cela.
Et ce n'est pas des copères qu'on trouve dans ces porte-monnaies de riches. Ce sont des shillings, des couronnes et aussi des pièces d'or. Et on les rapporte, on les partage avec les camarades. Mauvais propre à rien.
Oui, dit un autre, et on fait la nique aux policemen en s'en sauvant.
Ensuite, ajouta Carker, quand on irait en prison, qu'est-ce que ça fait? On y est aussi bien qu'ici, et même mieux. On vous y donne du pain, de la soupe aux pommes de terre, et on mange tout son content.
Je ne veux pas, je ne veux pas,
répétait l'enfant en se débattant au milieu de ces vauriens qui se le renvoyaient de l'un à l'autre comme une balle. Grippe, étant entré dans la salle, se hâta de l'arracher des mains de la bande.
« Allez-vous me laisser ce petit tranquille ? »
s'écria-t-il en serrant les poings. Cette fois, il était vraiment en colère, Grippe.
« Tu sais, » dit-il à Carker, « je tape pas souvent, n'est-ce pas ? Mais quand je me mets à taper... »
Après que ces garnements eurent laissé leur victime, quel regard ils lui jetèrent ! Comme ils se promirent de recommencer, dès que Grippe ne serait plus là, et même à la prochaine occasion, de leur faire leur affaire à tous les deux.
Bien sûr, Carker, tu seras brûlé,
dit petit bonhomme, non sans une certaine commisération.
Brûlé?
Oui, en enfer, si tu continues à être méchant. Réponse qui excita les railleries de toute cette bande de mécréants. Que voulez-vous? Le rôtissement de Carker, c'était une idée fixe chez petit bonhomme. Toutefois, il était à craindre que l'intervention de Grippe en sa faveur ne produisît pas d'heureux résultats. Carker et les autres étaient décidés à se venger du surveillant et de son protégé. Dans les coins, les pires garnements de la Wagged School tenaient des conciliabules qui ne présageaient rien de bon. Aussi, Grippe ne cessait-il de les surveiller, ne quittant notre garçonnet que le moins possible. La nuit, il le faisait monter jusqu'au galta qu'il occupait sous les bardeaux de la toiture. Là, dans ce réduit bien froid, bien misérable, petit bonhomme était du moins à l'abri des mauvais conseils et des mauvais traitements. Un jour, Grippe et lui étaient allés se promener sur la grève de Sutchill, où ils prenaient quelquefois plaisir à se baigner. Grippe, qui savait nager, donnait des leçons à petit bonhomme. Ah, que celui-ci était heureux de se plonger dans cette eau limpide, sur laquelle naviguaient de beaux navires, loin, bien loin, et dont il voyait les voiles blanches s'effacer à l'horizon. Tous deux se battaient au milieu des longues lames qui grondaient sur la grève. Grippe, tenant l'enfant par les épaules, lui indiquait les premiers mouvements. Soudain, de véritables hurlements de chacal se firent entendre du côté des rochers, et on vit apparaître les déguenillés de la Wagged School. Ils étaient une douzaine, des plus vicieux, des plus féroces, Carker à leur tête. S'ils criaient, s'ils vociféraient de la sorte, c'est qu'ils venaient d'apercevoir une mouette, blessée à l'aile, qui essayait de s'enfuir. Et peut-être y fut-elle parvenue si Carker ne lui eût lancé une pierre dont il l'atteignit. Petit bonhomme poussa un cri à faire croire que c'était lui qui avait reçu le coup. « Pauvre mouette ! Pauvre mouette ! » répétait-il. Une grosse colère saisit Grip, et probablement allait-il infliger à Carker une correction dont celui-ci se souviendrait, lorsqu'il vit l'enfant s'élancer sur la grève au milieu de la bande en demandant grâce pour l'oiseau. « Carker, je t'en prie !» répétait-il. « Bats-moi ! Bats-moi ! Mais pas la mouette ! Pas la mouette !» Quelle bordée de sarcasmes l'accueillirent lorsqu'on le vit se traîner sur le sable, tout nu, ses membres si grêles, ses côtes qui faisaient saillie sous la peau. Et toujours il criait « Grâce, Carker, grâce pour la mouette !» Personne ne l'écoutait. On se riait de ses supplications. La bande poursuivait l'oiseau qui essayait en vain à s'élever de terre, sautillant gauchement d'une patte sur l'autre et tâchant de gagner un abri entre les roches. Efforts inutiles. « Lâche ! Lâche !» criait Petit Bonhomme. Carker avait saisi la mouette par une aile et, la faisant tournoyer, il la lança en l'air. Elle retomba sur le sable. Un autre la ramassa et l'envoya sur les galets. « Grippe ! Grippe ! » répétait Petit Bonhomme. « Défends-la ! Défends-la !» Grippe se précipita sur ses gueux pour leur arracher l'oiseau. Il était trop tard. Carker venait d'écraser sous son talon la tête de la mouette. Et les rires de reprendre de plus belle au milieu d'un concert de hurrahs frénétiques. Petit Bonhomme était outré. La colère le prit alors, une colère aveuglante, et n'y tenant plus, il ramassa un galet et le jeta de toutes ses forces contre Carker, lequel le reçut en pleine poitrine. « Ah ! Tu vas me le payer !» s'écria Carker. Et avant que Grip eût pu l'en empêcher, il se précipita sur le jeune garçon. Il l'entraîna au bord de la grève, l'accablant de coups. Puis, tandis que les autres retenaient Grip par les bras, par les jambes, il enfonça la tête de Petit Bonhomme sous les lames, au risque de l'asphyxier. Étant parvenu à se débarrasser à coups de taloche de ses garnements dont la plupart roulèrent sur le sable en hurlant, Grip courut vers Carker qui s'enfuit avec toute la bande. En se retirant, les lames auraient entraîné Petit Bonhomme si Grip ne l'eût saisi et ramené à demi évanoui. Après l'avoir frotté vigoureusement, Grip ne tarda pas à le remettre sur pied. L'ayant rhabillé de ses haillons et le prenant par la main, « Viens, viens !» lui dit-il. Petit Bonhomme remonta du côté des roches. Là, apercevant l'oiseau écrasé, il s'agenouilla. Des larmes lui mouillèrent les yeux, et, creusant un trou dans le sable, il l'y enterra. Et lui-même, qu'était-il, si ce n'est un oiseau abandonné? Une pauvre mouette humaine. Chapitre 5. Encore la Wagged School. En rentrant à l'école, Grip crut devoir attirer l'attention de M. Hotbodkins sur la conduite de Carker et des autres. Ce ne fut point pour parler des tours qu'on lui jouait et dont il ne s'apercevait même pas la plupart du temps. Non, il s'agissait de Petit Bonhomme et des mauvais traitements auxquels il était en butte. Cette fois, cela avait été poussé si loin que sans l'intervention de Grip, il y aurait maintenant un cadavre d'enfant que les lames rouleraient sur la grève de cette île. Pour toute réponse, Grip n'obtint qu'un hochement de tête de M. Hotbodkins. Il aurait dû le comprendre, c'était de ces choses qui ne regardent point la comptabilité. Que diable ! Le grand livre ne peut avoir une colonne pour les taloches et une autre pour les coups de pied ? Cela ne saurait pas plus s'additionner en bonne arithmétique que trois cailloux et cinq chardonnerets ? Sans doute M. Hotbodkins avait comme directeur le devoir de s'inquiéter des agissements de ses pensionnaires. Mais comme comptable, il se borna à envoyer promener le surveillant de l'école. À partir de ce jour, Grippe résolut de ne plus perdre de vue son protégé, de ne jamais le laisser seul dans la grande salle. Et quand il sortait, il prenait soin de l'enfermer au fond de son galetas, ou du moins l'enfant se trouvait en sûreté. Les derniers mois de l'été s'écoulèrent. Septembre arriva. C'est déjà l'hiver pour les districts des comtés du Nord. Et l'hiver de la Haute-Irlande est fait d'une succession ininterrompue de neige, de bise, de rafales, de brouillard, venus des plaines glacées de l'Amérique septentrionale, et que les vents de l'Atlantique précipitent sur l'Europe. Un temps âpre et rude aux riverains de cette baie de Galway, enserré dans son écran de montagne, comme entre les parois d'une glacière. Des jours bien courts et des nuits bien longues à passer pour ceux dont le foyer n'a ni houille ni tourbe. Ne vous étonnez pas si la température est basse alors à l'intérieur de la Rugged School, sauf peut-être dans la chambre de M. Hobotkins. Est-ce que, si le directeur comptable n'était pas au chaud, son encre resterait liquide en son encrier? Est-ce que ses paraphes ne seraient pas gelées avant qu'il eût pu achever leur fioriture? C'était ou jamais le moment d'aller ramasser par les rues, sur les routes, tout ce qui est susceptible de se combiner avec l'oxygène pour produire de la chaleur. Médiocre ressource, il faut le reconnaître, lorsque l'on est réduit aux branches tombées des arbres, aux escarbilles abandonnées à la porte des maisons, aux cassures de charbon que les pauvres se disputent sur les quais de déchargement du port. Les pensionnaires de l'école s'occupaient donc à cette récolte, et combien les glaneurs étaient nombreux. Notre petit garçon prenait sa part de ce pénible travail. Chaque jour, il rapportait un peu de combustible. Ce n'était pas mendier, cela. Aussi, tant bien que mal, l'âtre brillait-il de vilaines flammes fumeuses dont il fallait se contenter. Toute l'école, gelée sous ses haillons, se pressait autour du foyer. Les plus grands aux bonnes places, cela va de soi, tandis que le souper essayait de cuire dans la marmite. Et quel souper! Des croûtes de pain, des pommes de terre de rebut, quelques os auxquels adhéraient encore des bribes de chair. Une abominable soupe, où les taches de graisse remplaçaient les yeux du bouillon gras. Il va sans dire que devant le feu, il n'y avait jamais une place pour petit bonhomme, et rarement une écuelle de ce liquide que la vieille réservait aux plus grands. Ceux-ci se jetaient dessus comme des chiens affamés, et n'hésitaient pas à montrer les crocs pour défendre leur maigre portion. Heureusement, Grippe s'empressait d'emmener l'enfant dans son trou, et il lui donnait le meilleur de ce qui lui revenait pour sa part de la réfection quotidienne. Sans doute, il n'y avait pas de feu là-haut. Cependant, en se blottissant sous la paille, en se serrant l'un contre l'autre, tous deux parvenaient à se garantir du froid, puis à s'endormir. Et le sommeil, peut-être cela réchauffe-t-il. Il faut l'espérer, du moins. Un jour, Grippe eut un vrai coup de fortune. Il était en promenade et filait le long de la principale rue de Galway lorsqu'un voyageur qui rentrait à Royal Hotel le pria de lui porter une lettre au post-office. Grippe s'empressa de faire la commission et pour sa peine, il reçut un beau shilling tout neuf. Certes, ce n'était pas un gros capital qui lui arrivait sous cette forme et il n'aurait pas à se creuser la tête pour décider s'il le placerait en rente sur l'État ou en valeurs industrielles. Non. Le placement tout indiqué se ferait en nature. Beaucoup dans l'estomac de petit bonhomme, un peu dans le sien. Il acheta donc une portion de charcuterie variée qui dura 3 jours et dont on se régala en cachette de Carker et des autres. On le pense bien, Grippe entendait ne rien partager avec ceux qui ne partageaient jamais avec lui. En outre, ce qui rendit particulièrement heureuse la rencontre de Grippe et du voyageur de Royal Hotel, c'est que ce digne gentleman, le voyant si mal vêtu, se défit en sa faveur d'un tricot de laine qui était en bon état. Ne croyez pas que Grippe eût songé à le garder pour son usage personnel, non. Il ne pensa qu'à petit bonhomme. Ce serait fameux d'avoir ce bon tricot sous ses haillons.
« Il sera là comme dans un mouton sous sa laine, » se dit le brave cœur.
Mais le mouton ne voulut point que Grippe se dépouilla de sa toison à son profit. Il y eut discussion. Enfin, les choses purent s'arranger à la satisfaction commune. En effet, le gentleman était gros, et son tricot eut fait deux fois le tour du corps de Grippe. Le gentleman était grand, et son tricot eut enveloppé petit bonhomme de la tête aux pieds. Donc, en gagnant sur la hauteur et la largeur, il ne serait pas impossible d'ajuster le tricot à l'avantage des deux amis. Demander à cette vieille ivrognesse de Chris de découdre et de recoudre, autant lui demander de renoncer à sa pipe. Aussi, s'enfermant dans le galetas, Grippe se mit-il à l'œuvre en y concentrant toute son intelligence. Après avoir pris mesure sur l'enfant, il travailla si adroitement qu'il parvint à confectionner une bonne veste de laine. Quant à lui, il se trouva pourvu d'un gilet. Sans manches, il est vrai, mais enfin, un gilet, c'est déjà quelque chose. Il va de soi que recommandation fut faite à Petit Bonhomme de cacher sa veste sous ses loques, afin que les autres ne pussent la voir. Plutôt que de la lui laisser, il l'aurait mise en morceaux. C'est ce qu'il fit, et s'il apprécia l'excellente chaleur de ce tricot pendant les grands froids de l'hiver, nous le laissons à penser. À la suite d'un mois d'octobre excessivement pluvieux, novembre déchaîna sur le comté une bise glaciale qui condensa en neige toute l'humidité de l'atmosphère. La couche blanche dépassa l'épaisseur de 2 pieds dans les rues de Galway. La récolte quotidienne de houille et de tourbe s'en ressentit. On gelait rudement dans la Rugged School. Et si le foyer manquait de combustible, l'estomac, qui est un foyer, en manquait également, car on n'y faisait pas de feu tous les jours. Il fallait bien néanmoins, au milieu de ces tempêtes de neige, à travers les courants glacés, le long des rues, sur les routes, que les déguenillés cherchassent à pourvoir aux besoins de l'école. Maintenant, on ne trouvait plus rien à ramasser entre les pavés. L'unique ressource, c'était d'aller de porte en porte. Certes, la paroisse faisait ce qu'elle pouvait pour ses pauvres, mais sans parler de la Rugged School, nombre d'établissements de charité se réclamaient d'elle en ce temps de misère. Les enfants étaient dès lors réduits à quêter d'une maison à l'autre, et quand toute pitié n'y était pas éteinte, on ne leur faisait pas mauvais accueil. Le plus souvent, il est vrai, avec quelle brutalité on les recevait, avec quelle menace en cas qu'ils s'aviseraient de revenir, et ils rentraient alors les mains vides. Petit Bonhomme n'avait pu se refuser à suivre l'exemple de ses compagnons. Et pourtant, lorsqu'il s'arrêtait devant une porte, après en avoir soulevé le marteau, il lui semblait que ce marteau retombait d'un grand coup sur sa poitrine. Alors, au lieu de tendre la main, il demandait si l'on n'avait pas quelque commission à lui donner. Il s'épargnait du moins la honte de mendier. Une commission à ce gamin de 5 ans, on savait ce que cela voulait dire, et parfois on lui jetait un morceau de pain qu'il prenait en pleurant. Que voulez-vous ? La faim... Avec décembre, le froid devint très rigoureux et très humide. La neige ne cessait de tomber à gros flocons. C'est à peine si l'on pouvait reconnaître son chemin à travers les rues. À 3 heures de l'après-midi, il fallait allumer le gaz, et la lumière jaunâtre des becs ne parvenait point à percer l'amas des brumes, comme si elle eût perdu tout pouvoir éclairant. Ni voiture, ni charrette en circulation. De rares passants se hâtant vers leur logis. Et Petit Bonhomme, avec les yeux brûlés par le froid, les mains et la figure bleuie sous les morsures de la bise, courait en serrant étroitement ses loques blanches de neige. Enfin ce pénible hiver s'acheva. Les premiers mois de l'année 1877 furent moins durs. L'été fit une précoce apparition. Il y eut d'assez fortes chaleurs dès le mois de juin. Le 17 août, Petit Bonhomme, il avait alors 5 ans et demi, eut la bonne chance d'une trouvaille qui allait avoir des conséquences très inattendues. À 7 heures du soir, il suivait une des ruelles aboutissant au pont de Gladagh, et revenant à la Ragged School, certain d'y être fort mal reçu, car sa tournée n'avait point été fructueuse. Sigrip n'avait pas quelques vieilles croûtes en réserve. Tous deux devraient se passer de souper ce soir-là. Ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs, et de s'attendre à manger tous les jours, à heure fixe, c'eût été de la présomption. Que les riches aient de ces habitudes, rien de mieux, puisque c'est dans leurs moyens. Mais un pauvre diable, ça mange quand ça peut, et ça ne mange pas quand ça ne peut pas, disait Grippe, très habitué à se nourrir de maximes philosophiques. Or, voilà qu'à 200 pas de l'école, petit bonhomme buta et s'étendit de tout son long sur le pavé. Comme il n'était point tombé de haut, il ne se fit aucun mal. Mais, au moment où il s'étalait, un objet heurté par son pied avait roulé devant lui. C'était une grosse bouteille de grès qui ne s'était pas cassée, par bonheur, car il aurait pu être blessé grièvement. Notre petit garçon se releva, et en cherchant autour de lui, finit par retrouver cette bouteille, dont la contenance pouvait être de 2 à 3 gallons. Un bouchon de liège fermait son goulot, et il suffisait de l'enlever avec la main pour savoir ce que contenait la dite bouteille. Petit bonhomme la déboucha donc, et il lui sembla qu'elle était pleine de gin. Ma foi, il y aurait là de quoi satisfaire tous les déguenillés. Et ce jour-là, petit bonhomme put être assuré qu'on lui ferait un excellent accueil. Personne dans la ruelle, aucun passant ne l'avait vu, et 200 pas le séparaient de la Ragged School. Mais alors des idées lui vinrent, des idées qui ne seraient venues ni à Carker ni aux autres. Elle ne lui appartenait pas, cette bouteille. Ce n'était point un don de charité, ce n'était pas un débris jeté aux ordures, c'était un objet perdu. Sans doute, de retrouver son propriétaire, cela ne laisserait pas d'être assez difficile. N'importe, sa conscience lui disait qu'il n'avait pas le droit de disposer de la chose d'autrui. Il savait cela d'instinct, car Turnpipe, pas plus que M. Hotbodkins, ne lui avait jamais enseigné ce que c'est que d'être honnête. Heureusement, il y a de ces cœurs d'enfants où c'est écrit tout de même. Petit bonhomme, assez embarrassé de sa trouvaille, prit la résolution de consulter Grippe. Bien sûr, Grippe parviendrait à opérer la restitution. L'essentiel, c'était d'introduire la bouteille dans le galta sans être vu des vauriens, car ils ne s'inquiéteraient guère de la rendre à qui elle appartenait. 2 ou 3 gallons de gin, quelle aubaine! La nuit venue, il n'en resterait pas une goutte. Pour ce qui concerne Grippe, petit bonhomme en répondait comme de lui. Il ne toucherait pas à la bouteille. Il la cacherait sous la paille, et le lendemain, il prendrait des informations dans le quartier, s'il le fallait. Tous deux iraient de maison en maison. Ils frapperaient aux portes. Ce ne serait pas pour mendier cette fois. Petit bonhomme se dirigea alors vers l'école, en essayant, non sans peine, de cacher la bouteille qui faisait une grosse bosse sous ses haillons. Par malchance, lorsqu'il fut arrivé devant la porte, voici que Carker sortit brusquement, et il ne put éviter le choc. D'ailleurs, Carker l'ayant reconnu et le voyant seul, trouva l'occasion bonne pour lui payer l'arriéré qu'il lui devait depuis l'intervention de Grippe sur la grève de Satchill. Il se jeta donc sur petit bonhomme, et ayant saisi la bouteille sous ses loques, il la lui arracha.
« Eh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? »
s'écria-t-il.
« Ça, ce n'est pas à toi. »«
Alors, c'est à toi ? » ?»«
Non, ce n'est pas à moi. »
Et petit bonhomme voulut repousser Carker, lequel, d'un coup de pied, l'envoya rouler à 3 pas. S'emparer de la bouteille, puis rentrer dans la salle, c'est ce que Carker eut fait en un instant, et petit bonhomme ne put que le suivre en pleurant de rage. Il essaya encore de protester, mais Grippe n'étant pas là pour lui venir en aide, ce qu'il reçut de taloches, de coups de pied, de coups de dents même. jusqu'à la vieille crise qui s'en mêla dès qu'elle eut aperçu la bouteille.
« Du gin ? » s'écria-t-elle.
« Du bon gin ? Et il y en aura pour tout le monde !»
Assurément, petit bonhomme eût mieux fait de laisser cette bouteille dans la rue, où son propriétaire l'a cherchée peut-être à cette heure. Car enfin, 2 ou 3 gallons de gin, ça vaut des shillings et même plus d'une demi-couronne. Il aurait dû se dire qu'il lui serait impossible de remonter au Galta de grippe sans être vu. Maintenant, il était trop tard. Quant à s'adresser à M. Hobkins, à lui raconter ce qui venait de se passer, il aurait été bien accueilli. Aller au cabinet du directeur, entr'ouvrir sa porte, si peu que ce fût, risquer de le déranger au plus fort de ses calculs. Et puis, qu'en serait-il résulté ? M. Hobkins aurait fait apporter la bouteille, et ceux qui entraient dans son bureau n'en sortaient guère. Petit bonhomme ne pouvait rien, et il se hâta de rejoindre Grippe au Galta afin de tout lui dire.
« Grippe, demanda-t-il, ce n'est pas à soi, n'est-ce pas, une bouteille qu'on trouve ?»«
Non, je crois pas, répondit Grippe.
« Est-ce que t'as trouvé une bouteille ?»«
Oui. » « J'avais l'intention de te la donner, et demain nous aurions été savoir dans le quartier. »«
À qui elle appartient ?» dit Grippe.
« Oui, et peut-être en cherchant... »«
Et ils te l'ont prise, cette bouteille ?»«
C'est carqueur, j'ai essayé de l'empêcher. Et alors les autres, si tu descendais, Grippe ?»«
Je vais descendre, et nous verrons à qui qu'elle restera, ta bouteille. »
Mais lorsque Grippe voulut sortir, il ne le put. La porte était fermée à l'extérieur. Cette porte, vigoureusement secouée, résista, à la grande joie de la bande qui criait d'en bas
« Hé, Grippe ! Hé, petit bonhomme ! À leur santé !»
Grippe, ne pouvant enfoncer la porte, se résigna suivant son habitude, s'efforçant de calmer son compagnon très en colère.
« Bon !» dit-il. « Laissons-les, ces bêtes !»«
Oh, n'être pas le plus fort !
À quoi que ça servirait ?
Tiens, petit, v'là des pommes de terre que je t'ai gardées. Mange !»«
Je n'ai pas faim, Grippe.
Mange tout de même, et puis on se fourra sous la paille pour dormir. »
C'était ce qu'il y aurait de mieux à faire, après un souper, hélas, si maigre. Si Carker avait fermé la porte du Galta, c'est qu'il ne tenait pas à être dérangé ce soir-là. Grippe sous les verrous, on serait à son aise pour fêter la bouteille de gin, et Chris ne s'y opposerait pas, pourvu qu'on lui réservât sa part. Et alors, la liqueur circula dans les tasses. Quel cri, quel hurlement! Il ne leur en fallait pas beaucoup à ces vauriens pour les griser, sauf Carker, peut-être, qui avait déjà l'habitude des boissons alcooliques. C'est ce qui ne tarda pas d'arriver. La bouteille n'était pas à demi vide, quoique Chris y eût puisé à même, que l'ignoble bande était plongée dans l'ivresse. Et ce tumulte, ce vacarme, ne suffirent pas à tirer M. Hobkins de son indifférence accoutumée. Que lui importait ce qui se passait en bas, lorsqu'il était en haut devant ses cartons et ses livres? La trompette du jugement dernier n'aurait pu l'en distraire. Et pourtant, il allait bientôt être brusquement arraché de son bureau, non sans grand dommage pour sa chère comptabilité. Après avoir absorbé 1,5 gallon de gin, des 3 que contenait la bouteille, la plupart des garnements étaient tombés sur leur paille, pour ne pas dire leur fumier. Et là, ils se fussent endormis, s'il ne fût venu à Carker l'idée de faire un brûlot. Un brûlot, c'est un punch. Au lieu de rhum, on met du gin dans une casserole, on l'allume, il flambe et on le boit tout brûlant. C'est ce qu'imagina Carker pour le plus vif plaisir de la vieille Chris et de 2 ou 3 autres qui résistaient encore. Certes, il manquait certains ingrédients à ce brûlot, mais les pensionnaires de la Wagon School n'étaient point exigeants. Lorsque le gin eut été versé dans la marmite, l'unique ustensile que la vieille Chris eut à sa disposition, Carker prit une allumette et alluma le brûlot. Dès que la flamme bleuâtre eut éclairé la salle, ceux de ces déguenillés qui pouvaient se tenir sur leurs jambes commencèrent une ronde bruyante autour de la marmite. Qui eût passé en ce moment dans la rue aurait cru qu'une légion de diables avait envahi l'école. Il est vrai, ce quartier est désert aux premières heures de la nuit. Soudain, une vaste lueur apparut à l'intérieur de la maison. Un faux pas ayant renversé le récipient, d'où débordaient les vapeurs enflammées du gin, le liquide se répandit sur la paille, en gagnant jusqu'au dernier recoin de la salle. En un instant, le feu fut partout, comme s'il eût fusé d'un tas de pièces d'artifice. Ceux qui étaient valides et ceux qui furent tirés de leur ivresse par les crépitements de l'incendie n'eurent que le temps d'ouvrir la porte, d'entraîner la vieille Chris et de se jeter dans la rue. En ce moment, Grippe et Petit Bonhomme, qui venaient de s'éveiller, cherchèrent vainement à s'enfuir hors du galetas, que remplissait une fumée suffocante. Déjà, d'ailleurs, le reflet des flammes avait été aperçu. Quelques habitants, munis de seaux et d'échelles, accouraient. Très heureusement, la Ragged School était isolée, et le vent, portant à l'opposé, ne menaçait point les maisons d'en face. Mais, s'il y avait peu d'espoir de sauver cette antique cassine, il fallait songer à ceux qui s'y trouvaient, et auxquels la flamme fermait toute issue. Alors s'ouvrit une fenêtre de l'étage qui donnait sur la rue. C'était la fenêtre du cabinet de M. Hobotkins que l'incendie allait bientôt atteindre. Le directeur apparut tout effaré, s'arrachant les cheveux. Ne croyez pas qu'il s'inquiétait de savoir si ses pensionnaires étaient en sûreté. Il ne songeait même pas à lui, ni au danger qu'il courait. « Mes livres ! Mes livres ! » criait-il en agitant désespérément les bras. Et, après avoir essayé de descendre par l'escalier de son cabinet dont les marches crépitaient sous la lèche des flammes, il se décida à jeter par la fenêtre ses registres, ses cartons, ses ustensiles de bureau. Aussitôt les garnements de se précipiter dessus, de les piétiner, d'éparpiller les feuillets que le vent dispersait. Tandis que M. Hobotkins se décidait enfin à se sauver par une échelle dressée contre la muraille. Mais ce que le directeur avait pu faire, Grippe et l'enfant ne le pouvaient pas. Le galetas ne prenait jour que par une étroite lucarne, et l'escalier qui le desservait s'effondrait marche à marche au milieu de la fournaise. La déflagration des murs de paillis commençait, et les flamèches, retombant en pluie sur le toit de chaume, allaient bientôt faire de la Ragged School un large brasier. Les cris de Grippe dominèrent alors le fracas de l'incendie. « Il y a donc du monde dans ce grenier ?» demanda quelqu'un qui venait d'arriver sur le théâtre de la catastrophe. C'était une dame en costume de voyage. Après avoir laissé sa voiture au tournant de la rue, elle était accourue de ce côté avec sa femme de chambre. En réalité, le sinistre s'était propagé si rapidement qu'il n'existait plus aucun moyen de s'en rendre maître. Aussi, depuis que le directeur avait été sauvé, avait-on cessé de combattre le feu, croyant qu'il ne se trouvait plus personne dans la maison. « Du secours ! Du secours à ceux qui sont là !» s'écria de nouveau la voyageuse en faisant de grands gestes dramatiques. « Des échelles, mes amis ! Des échelles et des sauveteurs !» Mais comment appliquer des échelles contre ces murs qui menaçaient de s'écrouler ? Comment atteindre le galetas sur un toit enveloppé d'une fumée épaisse et dont le chaume pétillait comme une meule livrée aux flammes ? « Qui donc est dans ce grenier ? » demanda-t-on à M. Hobotkins, occupé à ramasser ses registres. « Qui ? Je ne sais, » répondit le directeur éperdu, n'ayant conscience que de son propre désastre. Puis la mémoire lui revenait. « Ah, si ! Deux, Grippe et Petit Bonhomme. Les malheureux, s'écria la dame. Mon or, mes bijoux, tout ce que je possède, à qui les sauvera? Il était maintenant impossible de pénétrer à l'intérieur de l'école. Une gerbe écarlate se projetait à travers les murs. Le dedans flambait, crépitait, s'écroulait. Encore quelques instants, et sous le souffle de la rafale, qui tordait les flammes comme l'étamine d'un pavillon, la Rugged School ne serait plus qu'une caverne de feu, un tourbillon de vapeurs incandescentes. Soudain, le toit de chaume creva à la hauteur de la lucarne. Grip était parvenu à le déchirer, à briser les bardeaux, au moment où l'incendie faisait craquer le plancher du galetas. Il se hissa alors sur les traverses du faîtage et il tira après lui le jeune garçon à demi suffoqué. Puis, ayant gagné la partie du mur qui formait pignon à droite, il se laissa glisser sur l'arête, tenant toujours petit bonhomme entre ses bras. En ce moment, il se produisit une violente poussée de flammes fuligineuses, éructée de la toiture, en faisant jaillir des milliers d'étincelles. « Sauvez-le !» cria Grip. « Sauvez-le !» Et il lança l'enfant du côté de la rue, où par bonheur un homme le reçut dans ses bras, avant qu'il se fût brisé sur le sol. Grip, se jetant à son tour, roula, presque asphyxié au pied d'un pan de muraille, qui s'abattit d'un bloc. Alors la voyageuse, s'avançant vers l'homme qui tenait petit bonhomme, lui demanda d'une voix tremblante d'émotion « À qui est cette innocente créature ?»«
À personne, ce n'est qu'un enfant trouvé, » lui répondit cet homme.
« Eh bien, il est à moi !»« À moi !» s'écria-t-elle en le prenant, en le serrant sur sa poitrine.
« Madame, » fit observer la femme de chambre,
« Tais-toi, Elisa, tais-toi, c'est un ange qui m'est tombé du ciel. » Comme l'ange n'avait ni parents ni famille, autant valait le laisser aux mains de cette belle dame, douée d'un cœur si généreux. Et ce furent des hurrahs qui la saluèrent, au moment où s'écroulaient, au milieu d'une gerbe de flammerolles, les derniers restes de la Rugged School. Chapitre 6. Limerick. Quelle était cette femme charitable qui venait d'entrer en scène de cette façon, quelque peu mélodramatique? On l'aurait vue se précipitant au milieu des flammes, sacrifiant sa vie pour arracher cette frêle victime à la mort, que personne ne s'en fût étonné, tant elle y mettait de convictions scéniques. En vérité, il eût été sien, cet enfant, qu'elle ne l'aurait pas entouré plus étroitement de ses bras, tandis qu'elle l'emportait vers sa voiture. En vain, sa femme de chambre avait-elle voulu la décharger de ce précieux fardeau? Jamais, jamais.
Non, Elisa, laisse-le, répétait-elle d'une voix vibrante. Il est à moi. Le ciel m'a permis de le retirer des ruines de cette maison en flammes.
Merci, merci, mon Dieu. Ah, le chéri, le chéri.
Le chéri était à demi suffoqué, la respiration incomplète, la bouche haletante, les yeux fermés. Il lui aurait fallu de l'air, le grand air. Et après avoir été presque étouffé par les fumées de l'incendie, il risquait de l'être par les tourbillons de tendresse dont l'enveloppait sa libératrice.
« À la gare !» dit-elle au cocher lorsqu'elle eut rejoint sa voiture. « À la gare ! Une guinée si nous ne manquons pas le train de 9h47 !»
Le cocher ne pouvait être insensible à cette promesse. En Irlande, le pourboire n'étant rien de moins qu'une institution sociale. Aussi mit-il au trot le cheval de son growler, appellation qui s'applique à ces antiques et inconfortables véhicules. Mais enfin, quelle était cette providentielle voyageuse? Par une extraordinaire bonne chance, petit bonhomme était-il tombé entre des mains qui ne l'abandonneraient plus? Miss Anna Watson, premier grand rôle de drame du théâtre de Drury Lane, une sorte de Sarah Bernhardt en tournée, qui donnait actuellement des représentations au théâtre de Limerick, comté de Limerick, province de Munster. Elle venait d'achever un voyage d'agrément de quelques jours à travers le comté de Galway, accompagnée de sa femme de chambre. Autant dire une amie aussi grognonne que dévouée, la sèche Elisa Corbett. Excellente fille, cette comédienne, très goûtée du public des mélodrames, toujours en scène même après le baisser du rideau, toujours prête à s'emballer dans les questions de sentiment, ayant le cœur sur la main ouverte comme le cœur. Néanmoins très sérieuse en ce qui concernait son art,
intraitable dans les cas où une maladresse pouvait le compromettre, et à cheval sur les questions de cachet et de vedette. Miss Anna Watson, fort connue dans tous les comtés du Royaume-Uni, n'attendait que l'occasion d'aller se faire applaudir en Amérique, aux Indes, en Australie, c'est-à-dire partout où la langue anglaise est parlée, car elles avaient trop de fierté pour s'abaisser à n'être qu'une poupée de pantomime sur des théâtres où elles n'auraient pu être comprises. Depuis 3 jours, désireuse de se remettre des incessantes fatigues que lui imposait le drame moderne dans lequel elle ne cessait de mourir au dernier acte, elle était venue respirer l'air pur et fortifiant de la baie de Galway. Son voyage achevé, elle se dirigeait ce soir-là vers la gare pour prendre le train de Limerick où elle devait jouer le lendemain, lorsque des cris de détresse, une intense réverbération de flammes avait attiré son attention. C'était la Wagon School qui brûlait. Un incendie ? Comment résister au désir de voir un de ces incendies nature qui ressemblent si peu à ces incendies de théâtre aux lycopodes ? Sur son ordre, et malgré les observations d'Elisa, la voiture s'était arrêtée à l'extrémité de la rue, et Miss Anna Watson avait assisté aux diverses péripéties de ce spectacle, bien supérieur à ceux que les pompiers de service regardent d'un œil attentif et souriant. Cette fois, les praticables s'effondraient en se tordant. Les dessous flambaient pour tout de bon. En outre, cela n'avait pas manqué d'intérêt. La situation s'était corsée comme dans une pièce bien conduite. 2 créatures humaines sont enfermées au fond d'un galta dont l'escalier est dévoré par les flammes et qui n'a plus d'issue. 2 garçons, un grand et un petit. Peut-être une fillette eût-elle mieux valu. Et alors, les cris poussés par Miss Anna Watson, elle se serait élancée à leur secours, n'eût été son cache-poussière qui aurait pu donner un nouvel aliment à l'incendie. D'ailleurs, la toiture vient de se crever autour de la lucarne. Les 2 malheureux ont apparu au milieu des vapeurs, le grand portant le petit. Ah, le grand, quel héros, et comme il se pose en artiste! Quelle science du geste, quelle vérité d'expression! Pauvre Grippe, il ne se doute guère qu'il a produit tant d'effets. Quant à l'autre, le nice boy, le nice boy! « Le gentil !» répète Miss Anna Watson. « C'est un ange qui traverse les flammes d'un enfer !»« Vrai, petit bonhomme, c'est bien la première fois que tu auras été comparé à un chérubin ou à tout autre échantillon de la bambinerie céleste. » Oui, cette mise en scène, Miss Anna Watson en avait saisi les moindres détails. Comme au théâtre, elle s'était écriée « Mon or, mes bijoux et tout ce que je possède à qui les sauvera. » Mais personne n'avait pu s'élancer le long des murs chancelants sur la toiture croulante. Enfin, le chérubin avait été recueilli entre des bras ouverts à point pour le recevoir. Puis, de ses bras, il avait passé dans ceux de Miss Anna Watson. Et à présent, petit bonhomme possédait une mère. Et même la foule assurait que ce devait être une grande dame qui venait de reconnaître son fils au milieu de l'incendie de la Wagon School. Après avoir salué en s'inclinant, le public qui l'applaudissait, Miss Anna Watson avait disparu, emportant son trésor, malgré tout ce que lui disait sa femme de chambre. « Que voulez-vous ? Il ne faut pas demander à une comédienne âgée de 29 ans à la chevelure ardente, à la coloration chaude, au regard dramatique, et tant soit peu écervelé, de maîtriser ses sentiments, de se maintenir en une juste mesure, comme le faisait Elisa Corbett à l'âge de 37 ans, une blonde, froide et fade, depuis plusieurs années au service de sa fantasque maîtresse. Il est vrai, la caractéristique de l'actrice était de se croire toujours en représentation sur un théâtre, aux prises avec les péripéties de son répertoire. Pour elle, les circonstances les plus ordinaires de la vie étaient des situations. Et lorsque la situation est là...
Il va sans dire que la voiture étant arrivée à temps à la gare, le cocher reçut la guinée promise. Et maintenant, Miss Anna Weston, seule avec Elisa, au fond d'un compartiment de première classe, pouvait s'abandonner à toutes ces effusions dont le cœur d'une véritable mère eût été rempli.
« C'est mon enfant, mon sang, ma vie !» répétait-elle. « On ne me l'arrachera pas !»
Entre nous, qui eût pu songer à lui arracher ce petit abandonné sans famille ? Et Elisa de se dire « Nous verrons ce que cela durera !» Le train roulait alors à petite vitesse vers Arterui Junction en traversant le comté de Galway qu'il met en communication avec la capitale de l'Irlande. Pendant cette première partie du trajet, une douzaine de miles, petit bonhomme n'avait point repris connaissance, malgré les soins assidus et les phrases traditionnelles de la comédienne. Miss Anna Weston s'était d'abord occupée de le déshabiller. L'ayant débarrassé de ses loques souillées de fumée, à l'exception du tricot de laine qui était en assez bon état, elle lui avait fait une chemise d'une de ses camisoles tirées du sac de voyage, une veste d'un corsage de drap, une couverture de son châle. Mais l'enfant ne semblait pas s'apercevoir qu'il fût enveloppé de vêtements bien chauds et pressé sur un cœur encore plus chaud que n'étaient les vêtements. Enfin, à la jonction, une partie du train fut détachée et dirigée vers Kilcree, qui est à la limite du comté de Galway, où il y eut une halte d'une demi-heure. Pendant ce temps-là, petit bonhomme n'avait pas encore repris ses sens. « Elisa ! Elisa ! » s'écria Miss Anna Weston. « Il faut voir s'il n'y a pas un médecin dans le train. » Elisa s'informa, bien qu'elle assurât sa maîtresse que ça n'en valait pas la peine. Il n'y avait pas de médecin. « Ah, ces monstres !» répondit Miss Anna Weston. « Ils ne sont jamais où ils devraient être. »«
Voyons, madame, il n'a rien, ce gamin. Il finira par revenir à lui, si vous ne l'étouffez pas. »«
Tu crois, Elisa ? Le cher bébé ! Que veux-tu ? Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais eu d'enfant. »« Ah, si j'avais pu le nourrir de mon lait !»
Cela était impossible. Et d'ailleurs, petit bonhomme était d'un âge où l'on éprouve le besoin d'une alimentation plus substantielle.
Miss Anna Weston en fut donc pour ses regrets d'insuffisance maternelle. Le train traversa le comté de Clare. Cette presqu'île jetée entre la baie de Galway au nord et le long estuaire du Shannon au sud. Un comté dont on ferait une île en creusant un canal d'une trentaine de milles à la base des monts Sliepshütte. La nuit était sombre, l'atmosphère tumultueuse, balayée par les rafales de l'ouest. N'était-ce pas le ciel de la situation ?
Il ne revient pas à lui, cet ange ! Ne cessait de s'écrier Miss Anna Weston.
Voulez-vous que je vous dise, madame ?
Dis, Elisa, dis, de grâce.
Eh bien, je crois qu'il dort. Et c'était vrai. On traversa Dromore, Ennis, qui est la capitale du comté, où le train arriva vers minuit, puis Clare, puis Newmarket, puis Six Mills, la frontière enfin, et à 5 heures du matin, le train entrait en gare de Limerick. Non seulement petit bonhomme avait dormi pendant tout le trajet, mais Miss Anna Weston avait fini par succomber au sommeil, et lorsqu'elle se réveilla, elle s'aperçut que son protégé la regardait en ouvrant de grands yeux. Et alors, de l'embrasser en répétant « Il vit ! Il vit ! Dieu qui me l'a donné n'aurait pas eu la cruauté de me le reprendre !» Elisa voulut bien convenir que Dieu n'aurait pu être cruel à ce point. Et voilà comment il advint que notre petit garçon passa presque sans transition du Galta de la Wagon School au bel appartement que Miss Anna Weston, en représentation au théâtre de Limerick, occupait au Royal George Hotel. Un comté qui a vaillamment marqué dans l'histoire de l'Irlande, ce comté de Limerick, où s'organisa la résistance des catholiques contre l'Angleterre protestante.
Sa capitale, fidèle à la dynastie jacobite, tintait au redoutable Cromwell, subit un siège mémorable, puis, abattu par la famine et les maladies, noyé dans le sang des exécutions, finit par succomber. Là fut signé le traité qui porte son nom, lequel assurait aux catholiques irlandais l'égalité des droits civils et le libre exercice de leur culte. Il est vrai, ces dispositions furent outrageusement violées par Guillaume d'Orange. Il fallut reprendre les armes après de longues et cruelles exactions. Mais, malgré leur valeur, et bien que la Révolution française eût envoyé Hoche à leur secours, les Irlandais, qui se battaient la corde au cou, comme ils disaient, furent vaincus à Ballinamack. En 1829, les droits des catholiques se virent enfin reconnus, grâce au grand O'Connell, qui prit en main le drapeau de l'indépendance et obtint, ou plutôt imposa, le bill d'émancipation au gouvernement de la Grande-Bretagne. Et, puisque ce roman a choisi l'Irlande pour théâtre, qu'il nous soit permis de rappeler ces quelques phrases inoubliables jetées alors à la face des hommes d'État de l'Angleterre. Que l'on veuille bien ne point les considérer comme un hors-d'œuvre, elles sont gravées au cœur des Irlandais, et on en sentira l'influence en quelques épisodes de cette histoire. « Jamais ministère ne fut plus indigne », s'est écrié un jour O'Connell. « Stanley est un Whig renégat, Sir James Graham quelque chose de pire encore, Sir Robert Peel un drapeau bariolé de 500 couleurs, et pas bon teint. Aujourd'hui orange, demain vert, le surlendemain ni l'une ni l'autre de ces couleurs. Mais il faut prendre garde que ce drapeau soit jamais teint de sang. Quant à ce pauvre diable de Wellington, rien de plus absurde que d'avoir édifié cet homme-là en Angleterre. L'historien Allison n'a-t-il pas démontré qu'il avait été surpris à Waterloo ? Heureusement pour lui, il avait alors des troupes déterminées. Il avait des soldats irlandais. Les Irlandais ont été dévoués à la maison de Brunswick, lorsqu'elle était leur ennemie, fidèles à George III qui les trahissait, fidèles à George IV qui poussait des cris de rage en accordant l'émancipation, fidèles au vieux Guillaume à qui le ministère prêtait un discours intolérable et sanguinaire contre l'Irlande, fidèles à la reine, enfin. Aussi aux Anglais, l'Angleterre, aux Écossais, l'Écosse. Aux Irlandais, l'Irlande. Noble parole. On verra bientôt comment s'est réalisé le vœu d'O'Connell et si le sol de l'Irlande est aux Irlandais. Limerick est encore l'une des principales cités de l'île Émeraude, bien qu'elle soit descendue du troisième au quatrième rang, depuis que Tralee lui a pris une partie de son commerce. Elle possède une population de 30 000 habitants. Ses rues sont régulières, larges, droites, tracées à l'américaine. Ses boutiques, ses magasins, ses hôtels, ses édifices publics s'élèvent sur des places spacieuses. Mais vient-on à franchir le pont de Thomond, quand on a salué la pierre sur laquelle fut signé le traité d'émancipation, on trouve la partie de la ville restée obstinément irlandaise, avec ses misères et les ruines du siège, les remparts effondrés, l'emplacement de cette batterie noire que les intrépides femmes, comme autant de Jeanne Hachette, défendirent jusqu'à la mort contre les orangistes. Rien de plus attristant, de plus lamentable que ce contraste. Évidemment, Limerick est située de manière à devenir un important centre industriel et commercial. Le Shannon, le fleuve d'Azur, lui offre un de ces chemins qui marchent comme la Clyde, la Tamise ou la Mersey. Par malheur, si Londres, Glasgow et Liverpool utilisent leur fleuve, Limerick laisse le sien à peu près sans emploi. À peine quelques barques animent-elles ces eaux paresseuses qui se contentent de baigner les beaux quartiers de la ville et d'arroser les gras pâturages de leur vallée. Les émigrants irlandais devraient bien emporter le Shannon en Amérique. Soyez sûrs que les Américains sauraient en faire bon usage.
Si toute l'industrie de Limerick se borne à fabriquer des jambons, ce n'en est pas moins une agréable cité, où la partie féminine de la population est remarquablement belle. Et il était facile de le constater pendant les représentations de Miss Anna Watson. Avouons-le, ce ne sont pas ces comédiennes d'une personnalité si bruyante qui réclament un mur pour la vie privée. Non. Elles feront plutôt monter le loyer des maisons de verre le jour où les architectes sauront en construire. Après tout, Miss Anna Watson n'avait point à cacher ce qui s'était passé à Galway. Dès le lendemain de son arrivée, on ne cessait de parler dans les salons de Limerick de la Wagon School. Le bruit courut que l'héroïne de tant de drames s'était jetée au milieu des flammes pour sauver un petit être, et elle ne le démentit pas trop. Peut-être le croyait-elle, comme ces hableurs qui finissent par ajouter foi à leur hablerie. Ce qui était certain, c'est qu'elle avait ramené un enfant à Royal George Hotel, un enfant qu'elle voulait adopter, un orphelin auquel elle donnerait son nom, puisqu'il n'en avait pas. Non, pas même un nom de baptême. « Petit bonhomme » avait-il répondu lorsqu'elle lui avait demandé comment il s'appelait. Eh bien, petit bonhomme lui allait. Elle n'aurait pas mieux trouvé. Cela valait bien Édouard, Arthur ou Mortimer. Et d'ailleurs, elle lui prodiguerait les babies, les bébouis, les babyscli et autres équivalents maternels utilisés en Angleterre. Nous conviendrons que notre héros ne comprenait rien à tout cela. Il se laissait faire, n'étant point habitué aux caresses, et on le caressait, ni aux baisers, et on l'embrassait, ni aux beaux habits, et il fut habillé à la mode, ni aux chaussures, et on lui mit des bottines neuves, ni aux frisures, et ses cheveux furent disposés en boucle, ni à la bonne nourriture, et on le nourrissait royalement, ni aux friandises, et on l'en accablait. Il va de soi que les amis et amis de la comédienne affluèrent à l'appartement de Royal George Hotel. Ce qu'elle reçut de compliments, et avec quelle bonne grâce elle les acceptait. On reprenait l'histoire de la Wagon School. Après 20 minutes de récit, il était rare que le feu n'eût pas dévoré la ville de Galway tout entière. On ne pouvait comparer à ce sinistre que le fameux incendie qui détruisit une grande partie de la capitale du Royaume-Uni et dont témoigne le « Fire Monument » élevé à quelques pas de London Bridge. On l'imagine sans peine, l'enfant n'était pas oublié pendant ses visites, et Miss Anna Watson en jouait d'une façon supérieure. Pourtant, il se souvenait, il se rappelait que, s'il n'avait jamais été autant choyé, on l'avait aimé du moins. Aussi un jour demanda-t-il « Où donc est Gwip ?»« Qu'est-ce que Gwip, mon babiche ?» répondit Miss Anna Watson. Elle sut alors ce qu'était Gwip. Certainement, sans lui, petit bonhomme eût péri dans les flammes. Si Gwip ne se fût dévoué pour le sauver au risque de sa propre vie, c'est un cadavre d'enfant qu'on eût retrouvé sous les décombres de l'école. Cela était bien, très bien, de la part de Gwip. Cependant, son héroïsme, on acceptait ce mot, ne pouvait diminuer en rien la part qui revenait à Miss Anna Watson dans le sauvetage. Admettez que cette admirable femme ne se fût pas providentiellement trouvée sur le théâtre de l'incendie, où serait aujourd'hui petit bonhomme? Qui l'aurait recueilli? En quelle bouge l'eût-on renfermé avec les autres déguenillés de la Wagon School? La vérité est que personne ne s'était informé de Gwip. On ne savait rien à son sujet, et on ne tenait guère à en savoir davantage. Petit bonhomme finirait par l'oublier, il n'en parlerait plus. On se trompait. Et l'image de celui qu'il avait nourri et protégé ne s'effacerait jamais de son cœur. Et pourtant, que de distractions l'enfant adoptif de la comédienne rencontrait dans sa nouvelle existence. Il accompagnait Miss Anna Weston pendant ses promenades, assis près d'elle, sur le coussin de sa voiture, au milieu des beaux quartiers de Limerick, à l'heure où le monde élégant pouvait la voir passer. Jamais bébé n'avait été plus attifé, plus enrubanné, plus décoratif, si l'on veut permettre cette expression. Et que de costumes variés, qui lui eussent fait une riche garde-robe d'acteur. Tantôt c'était un Écossais, avec plaid, toque et filabègue. Tantôt un page, avec maillot gris et juste au corps écarlate. Ou bien un mousse de fantaisie, avec vareuse bouffante et béret rejeté en arrière. Au vrai, il avait remplacé le carlin de sa maîtresse, une bête hargneuse et mordante, et s'il eût été plus petit, peut-être l'aurait-elle fourré dans son manchon, en ne laissant passer que sa tête toute frisottée. Et en outre des promenades à travers la ville, ses excursions jusqu'aux stations balnéaires des environs de Kilkwy, avec ses magnifiques falaises sur la côte de Clare, Milton Malbay, cité pour ses redoutables roches qui déchiquetèrent jadis une partie de l'invincible armada. Là, petit bonhomme était exhibé, comme un phénomène sous cette désignation, l'ange sauvé des flammes. Une ou deux fois, on le conduisit au théâtre. Il fallait le voir en baby du grand monde, ganté de frais. Des gants à se garçonner. Trônant au premier rang d'une loge sous l'œil sévère d'Élisa, osant à peine remuer, et luttant contre le sommeil jusqu'à la fin de la représentation. S'il ne comprenait pas grand-chose aux pièces, il croyait cependant que tout ce qu'il voyait était réel, non imaginaire. Aussi, lorsque Miss Anna Weston apparaissait en costume de reine, avec diadème et manteau royal, puis en femme du peuple, portant cornette et tablier, ou même en pauvresse, vêtue de haillons à volants et coiffée du chapeau à fleurs des mendiantes anglaises, il ne pouvait croire que ce fût elle qu'il retrouvait à Royal George Hotel. De là, le profond trouble de son imagination enfantine. Il ne savait plus que penser. Il en rêvait la nuit, comme si le sombre drame eût continué. Et alors, c'était des cauchemars effrayants, auxquels se mêlaient le montreur de marionnettes, ce gueux de carqueur, les autres mauvais garnements de l'école. Il se réveillait, trempé de sueur, et n'osait appeler. On sait combien les Irlandais sont passionnés pour les exercices de sport, et en particulier pour les courses de chevaux. Ces jours-là, il y a un envahissement de Limerick, de ses places, de ses rues, de ses hôtels, par la gentry des environs, et les fermiers qui désertent leurs fermes, et les misérables de toute espèce qui sont parvenus à économiser un shilling ou un demi-shilling pour le mettre sur un cheval. Or, 15 jours après son arrivée, petit bonhomme eut l'occasion d'être exhibé au milieu d'un concours de ce genre. Quelle toilette il portait! On eût juré un bouquet plutôt qu'un bébé, tant il était fleuri de la tête aux pieds. Un bouquet que Miss Anna Weston faisait admirer. On pourrait même dire « respirer » à ses amis et connaissances. Enfin, il faut bien prendre cette créature pour ce qu'elle est. Un peu extravagante, un peu détraquée, mais bonne et compatissante, quand elle trouvait le moyen de l'être avec quelque apparat. Si les attentions dont elle comblait l'enfant étaient visiblement théâtrales, si ses baisers ressemblaient aux baisers conventionnels de la scène qui ne viennent que des lèvres, ce n'était pas petit bonhomme qui eût été capable d'en saisir la différence. Et pourtant, il ne se sentait pas aimé comme il l'aurait voulu. Et peut-être se disait-il, sans en avoir conscience, ce que ne cessait de répéter Élisa. « Nous verrons bien ce que cela durera, en admettant que cela dure. »